au Golf, entre parenthèses, podcast, le podcast où on jase de golf entre filles. En collaboration avec l'équipe More Birdie, dans leur studio Adidas TaylorMade. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Sinon, vous pouvez aussi écouter leur podcast sur les différentes plateformes audio. Bon podcast. Sujet d'aujourd'hui, l'équipement. Donc, on va vous parler... comment que les compagnies de golf ont utilisé les genres pour nommer les spécifications des bâtons comme les tiges? On va un petit peu vous démystifier tout ça pour que vous compreniez bien quel bâton est associé pour vous, puis plutôt d'aller choisir quelque chose en fonction de ce que les compagnies vous disent. C'est ça qu'on veut parler un petit peu aujourd'hui.
Gros sujet. Je dois avouer que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu de l'historique là, en travaillant... À travailler un petit peu plus dans la vente de bâtons, puis au club de golf, là, évidemment, les journées démo sont des journées que j'adore énormément. Je me suis rendu compte que ce que les compagnies ou ce que le marketing promouvoit représente peut-être pas la réalité, ou du moins, présente pas les bons facteurs pour décrire
le produit.
Souvent, on va voir, ça, c'est des bâtons pour femmes. T'sais, combien de fois, toi, Ellie, il y a quelqu'un qui t'a dit, mais toi, tu joues-tu des bâtons pour femmes? Ben non. Je frappe la balle 240 verges sur driver. Tu penses-tu vraiment que je joue des bâtons pour femmes? Parce que c'est pas le fait d'être une femme qui explique le bâton que je joue.
C'est quoi de bon?
C'est autre chose. C'est la vitesse.
C'est la vitesse qu'on swing. Fait que moi, je me suis fait dire toute ma vie, moi, femme, tu frappes-tu des bâtons pour hommes? Finalement, moi, c'était plus ça. Hey, tu dois frapper des bâtons pour hommes? OK. Alors, voilà. Fait que aujourd'hui, on parle de ça. Premier sujet, c'est les combinaisons de bâtons. Ensuite de ça, on va aller vers les lofts, qui est un mot anglophone qu'on va expliquer tout à l'heure. Ensuite de ça, on va parler plus des tiges de bâtons. Puis, tout ça en restant le moins technique possible, juste pour expliquer un petit peu les concepts généraux, pour vous aider à poser les bonnes questions lorsque vous allez acheter des bâtons, puis pas juste prendre... ce que les pros, dans le fond, vont vous dire, ça dépend. S'ils ne vous connaissent pas, ils vont vous dire, ça va être parfait pour vous, vous commencez. Mais ils ne vous connaissent pas. Fait que, on veut juste un petit peu vous mettre en garde pour pouvoir poser peut-être les bonnes questions lorsque vous allez acheter des bâtons.
Oui, exactement. Puis on n'est pas ici non plus pour dire que des compagnies font mal leur emploi. Là. C'est difficile parce que l'équipement puis l'ajustement de bâtons, c'est quelque chose de complexe. Les gens font leur carrière là-dessus parce que ça évolue beaucoup, souvent, rapidement, et peu importe la région que vous êtes, il y a un ajustement de bâton disponible pour vous. N'hésitez pas.
Okay? Exact.
Un bon fitter, que ce soit les représentants, que ce soit les endroits spécifiques, professionnels, il y a toujours des bons endroits, puis je vais en profiter pour promouvoir. Là, ici, là, on a la chance de travailler avec More Birdie et B2 Golf dans la région de Québec. Qui ont un programme d'ajustement de bâton, qui ont un professionnel qui est certifié, qui connaît les nouvelles technologies, mais les différents aspects aussi au niveau de l'équipement. N'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à parler à votre professionnel enseignant.
Oui.
Qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que tu penses? N'hésitez pas à prendre 2 secondes pour garder l'ajustement de bâton, ou du moins ce qui vous a été conseillé, puis dire « je vais le tester ». Je vais le tester avec d'autres mondes. Est-ce que tu penses que c'est correct? Rien enlever aux gens qui vous conseillent dans les différents magasins, mais de l'ajustement de bâton par quelqu'un qui vous connaît fait toute la différence. Parce qu'il sait où vous en allez, c'est quoi vos objectifs, et il ne voit pas juste frapper 8 drivers dans un simulateur en gougoune.
Exactement. T'sais, votre professionnel qui vous enseigne, qui vous suit à chaque jour, va savoir si vous êtes un peu dans le développement de la puissance. Parce que j'ai enseigné à beaucoup de jeunes femmes, là, que ce soit junior, mais surtout les jeunes femmes d'une trentaine d'années qui commencent, je le sais qu'ils vont développer de la vitesse.
Ils font du crossfit trois fois par semaine.
Ouais. Ils jouent au baseball, ils font du ski. J'en ai, là, j'ai trois noms en tête en ce moment. Ces filles-là vont aller chercher de la vitesse. Là. Puis c'est ça que je cherche pour eux, je veux qu'elles développent de la vitesse. Okay? Donc, il faut absolument que vous parliez à votre enseignant. Il va vous le dire, objectif, la vitesse va augmenter, donc quand tu vas aller te faire ajuster ça, dis-le à ton au fitter.
Ouais, puis tout bon Tout bon maître ajusteur va vous poser ces questions-là. Fait qu'ayez les réponses, ça va juste aller plus vite, puis ça va être encore plus facile de trouver les meilleures options.
Exact. Là, on parle de combinaison de bâtons. Donc, qu'est-ce que ton sac de golf devrait contenir? Donc, il y a des bâtons qui ne sont peut-être pas nécessaires pour la majorité des femmes. Alors, on en parle maintenant. Alex, quelle est la combinaison de bâtons dans ton sac que tu as besoin?
Bien, en fait, la première chose, c'est quel est votre objectif? Pourquoi vous jouez au golf? À quel niveau vous jouez au golf? La grande majorité des femmes ont souvent beaucoup trop de bâtons dans leur sac, ce qui fait que ils vont toujours jouer avec les mêmes 6-7 bâtons parce que ben sur chaque trou, vous frappez votre bois de départ, vous ne vous rendez pas sur le verre, donc vous frappez votre bois d'allée. Au final, il vous reste peu de distance, vous frappez un fer plus court, puis vous êtes rendu autour du verre, vous avez juste besoin de votre wedge. Fait que je vais vous proposer une combinaison qui va se décliner en deux temps parce qu'il y a des gens qui aiment mieux jouer les bois d'allée, il y a des gens qui aiment mieux jouer les hybrides. Fait que je vais vous donner les deux options.
Comment on fait pour savoir si on aime mieux les hybrides ou les bois?
L'essayer. Les essayer. Ouais. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage aux deux. Comme tout le monde, peu importe votre niveau de jeu, vous êtes souvent plus un joueur de bois ou un joueur de fer. Là. Mm-hmm. Bon, ben, au niveau de l'hybride puis du bois d'allée, c'est un petit peu ça. Les deux vont avoir une trajectoire qui est un petit peu différente. Où vous jouez aussi, c'est différent. Si vous jouez à un endroit qui n'a pas vraiment d'herbe longue, ben, vous allez peut-être aimer jouer les bois d'allée un petit peu plus. Mm-hmm. Si vous avez un endroit où votre surintendant vous aime beaucoup, puis il met l'herbe longue assez longue, puis que la balle s'enfonce, ben, vous allez peut-être aimer plus avoir là, des bâtons hybrides là, pour aller chercher la balle.
Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce soit un hybride ou un bois, il y a un peu les équivalents dans chacun. On les nomme différemment, là, les numéros et tout ça, là, c'est un petit peu fait différemment, mais il y a l'équivalent dans les deux, puis Alex va en parler.
Exactement. Avant d'embarquer sur les bâtons directement, je veux juste vous mentionner que chaque compagnie a ses propres standards. Donc, quand vous allez, par exemple, vous faire ajuster chez une compagnie, puis vous voulez comparer avec une autre compagnie, faites juste attention des fois parce qu'ils n'ont pas les mêmes lofts. Okay? On va en parler un petit peu plus tard, mais le loft, c'est l'angle de votre bâton. Il y a des compagnies, puis là, je parle beaucoup là, les bâtons pour femmes. Les bâtons pour femmes, il y a des compagnies qui valorisent beaucoup les angles de bâton traditionnels qu'on va voir ce qu'on appelle chez les hommes. Donc, il y a par exemple un bois 3 qui a 15 degrés, un bois 5 qui a 19 degrés, bon, ben, et ainsi de suite. Il y a certaines autres compagnies qui vont avoir des angles de bois qui sont beaucoup plus élevés pour promouvoir la hauteur de balle. Ce qui fait qu'un bois 5 chez une compagnie et un bois 5 chez l'autre compagnie n'ont pas le même angle de bâton. Pourtant, se nomment de la même façon. Donc, je veux juste que je mets un petit, le mot anglais, un petit disclaimer.
Un petit astérix à tout ça.
Donc, premier sujet, le bois de départ. Oui. Évidemment, tout le monde se doit d'avoir un bois de départ. Si vous avez de la difficulté avec votre bois de départ, Académie Elisabeth Asselin. Mais allez voir votre professionnel enseignant, il va vous aider avec ça. Après ça, le gros dilemme, c'est les bois d'allée.
Oui.
Je ne crois pas, je ne sais pas ce que tu en penses, Élie. Je pense que, à moins d'être un très haut niveau en tant que joueuse de golf, là, un bois 3 n'est pas nécessaire dans un sac de golf. En fait, si vous n'avez pas beaucoup de vitesse d'élan, peu importe homme, femme, peu importe votre genre. Non. Si vous n'avez pas beaucoup de vitesse dans votre élan, un bois 3 n'est pas nécessaire.
Non, puis je suis d'accord avec toi, parce que juste quand j'allais dans mes mains mon bois 3, là, ben j'en ai un, parce que, bon, j'en ai un, je devrais avoir un bois 4, qui a un loft un petit peu plus élevé. Un 2 degrés, vous direz, c'est pas beaucoup, mais ça fait la différence. À chaque fois que j'allais dans mes mains, j'essaye de swinguer différemment pour lever la balle. Donc, je devrais pas avoir à faire ça. Mon bois devrait la lever automatiquement. Quand on parle de quelqu'un qui a plus de vitesse de bâton, il ne pense pas à ça, il sait qu'elle va lever parce qu'il frappe tellement fort que la balle a plus le temps de lever. Mais moi, la mienne, il faut que je la lève parce qu'elle va tomber un peu plus vite.
Moins on a de vitesse, plus difficile c'est de faire lever la balle. Donc, moins de vitesse, bois 3, on peut l'oublier dans votre sac. On peut commencer avec un bois 5.
Oui.
Dans les bois d'allée, si vous aimez jouer les bois d'allée, vous pouvez vraiment là, aller chercher là, plusieurs bois d'allée dans votre sac. Donc, on parle d'un bois 5, on parle d'un bois 7, on parle même jusqu'à un bois 9. Chez certaines compagnies, là, c'est 30 degrés, un bois 9. Okay. C'est presque un fer 7. Là,
oh my God.
C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'angles, mais C'est ce qui va faciliter parce que le bois d'allée va glisser sur le gazon. Mm. Quand on a moins de vitesse, ben, on a besoin de cette aide-là. Souvent, on veut que le bâton glisse puis qu'il fasse contact avec la balle, que la balle soit propulsée plus rapidement dans les airs. Pourquoi? Ben, parce qu'elle va, si elle est plus longtemps dans les airs, elle va voyager plus. Donc, j'ai pas dit plus haut, j'ai dit plus longtemps dans les airs.
Plus longtemps.
C'est ça le point clé. Si vous n'aimez pas vraiment les bois d'allée, il y a les hybrides. L'avantage des hybrides, comme on a dit, c'est le gazon est un petit peu plus long. Ça va être plus facile à sortir parce qu'il va y avoir moins de friction avec le gazon. L'avantage des bois d'allée aussi... L'avantage des hybrides, c'est que la tête de bâton est un petit peu plus petite, mais le bâton est un petit peu plus court aussi.
Mais oui, parce qu'il porte bien son nom, l'hybride. Là. C'est vraiment l'entre-deux entre le fer et le bois. Ouais. Donc, il y a le derrière que j'appelle du bois, avec la genre de boule, là, qu'on dit un derrière, mais à moitié, parce qu'il veut être aussi un fer.
Exactement. Donc, on a vraiment la forme classique d'un bois d'allée aussi dans la composition. Donc, c'est un espace qui est vide derrière la face de bâton, là, dans cette fameuse boule-là. Mais aussi, on a la longueur du fer qui nous permet d'aller chercher un petit peu plus de contrôle aussi là, au niveau de l'élan.
C'est ça, parce que c'est pas évident des fois des bois au début quand on commence, parce qu'on dirait qu'on a une perche dans les mains.
C'est
pas tout le monde qui aime ça. C'est plus difficile. Le driver, il est long, mais il est sur un tee, donc il peut être plus facile. En commençant, c'est normal de trouver ça plus difficile de frapper un fer.
Mm-hmm.
C'est vrai, hein?
Ah, bien, définitivement. Puis c'est pour ça que si on s'en va vers les hybrides, je vous conseille peut-être un hybride 5, un hybride 6. Si vous aimez vraiment les hybrides, vous avez de la difficulté avec un fer, beaucoup de compagnies vont même offrir le hybride 7 dans les bâtons, là, souvent plus permissifs. Là, souvent, ça va être disponible.
Comment ils sont numérotés, les hybrides? Eux, sont fins. Là. Ils numérotent comme si c'était des fers.
Exact. C'est une compensation hybride pour le fer.
Exact. Donc, si tu avais un fer 7 puis tu aurais eu un fer 6, ben, ils nomment hybride 6. Donc, ils rajoutent un derrière puis ils gardent un peu la numérotation des fers.
Oui, exactement. Ouais. Ils vont vraiment le numéroter tout ça là, pour qu'il y ait vraiment une cohésion dans votre ensemble de golf. Puis quand on tombe au fer, le fer que vous êtes capable de frapper, c'est le fer 7. On descend jusqu'au pitching wedge.
Oui.
Donc, fer 7, on parle d'un fer 8, on parle d'un fer 9, on parle d'un pitching wedge. Encore là, si vous ne voulez pas tous ces bâtons-là parce que vous dites « Alexandra, je les frappe pas ou je les frappe toutes la même distance », prenez les bâtons, vous êtes confortable. Si le fer 7, vous ne le frappez pas plus loin que votre fer 8, mais commencez à faire 8.
Oui.
Si le fer 8, vous ne le frappez pas plus loin que votre fer 9, mais que votre hybride, la distance entre les deux est faible, mais prenez pas un fer 8, prenez juste un fer 9, prenez juste un pitching wedge. Et j'arrête à pitching wedge quand je dis ça, parce que je crois que la grande lacune des sacs pour femmes, mais les compagnies s'améliorent beaucoup, beaucoup,
beaucoup.
C'est les wedges.
Ouais.
Souvent, les compagnies vont se mettre à faire des wedges qui sont exactement à la même technologie, à la même esthétique que l'ensemble de fer, du fer 7 et tout et tout. Le problème que ça crée des sand wedges. Donc, on parle ici autour de 54 à 56 degrés. Encore là, pour l'instant, sand wedge, gardez juste ça en tête. Là.
Est-ce que sand wedge peut seulement être utilisé dans le sand, donc dans la trappe de sable?
Ouais, ça, c'est un autre cliché. Là, c'est pas vrai. Là. Le sand wedge, c'est un angle, OK? C'est juste qu'ils ont, pour faciliter la chose, ils ont mis un sand wedge. Là. Votre wedge là, de sable, là, vous allez l'utiliser tellement souvent dans tellement de situations autour du verre aussi. Donc, autant que le pitching wedge, le sand wedge, vous allez l'utiliser aussi. La différence entre un pitching wedge et un sand wedge, c'est juste que le pitching wedge, quand vous allez exécuter un coup qui est un petit peu plus court, risque de rouler un petit peu plus longtemps. Le sand wedge va avoir une trajectoire qui est un petit peu plus en lob ou en hauteur, puis il va avoir un petit peu moins de roulement à ce moment-là. Donc, expérimenter les différents types de cocheurs. Si on prend le bon français, allez voir les différents cocheurs, les différents types. Maintenant, les compagnies sont très, très bonnes pour offrir des têtes de cocheurs qui sont un petit peu plus permissives, là, qui ne sont pas là, les fameuses têtes là, très, très épurées, mais très restrictives. Là. Ils offrent vraiment des têtes qui sont beaucoup plus faciles à jouer, mais avec des tiges aussi, en graphite, là, des tiges beaucoup plus légères qui vont vous permettre, vous, en tant que femme, souvent, de ne pas avoir quelque chose de trop lourd, quelque chose de simple que vous allez utiliser autour des verres. De toute façon, la plupart des femmes, là, le sand wedge, vous n'allez jamais le frapper en élan complet.
C'est très rare.
Frapper autour, ça va être des coups d'approche. Ça va être vraiment en proximité du verre. Donc, trouver un bâton avec lequel vous allez confortable, ça n'a pas besoin d'être exactement les mêmes propriétés qu'un élan complet.
Exact. Donc, ce qu'Alex dit, c'est que souvent, on aimerait peut-être s'acheter un sandwich à part du set, puis peut-être de trouver vraiment la combinaison pour nous. Souvent, il est fait un peu plus tranchant, qu'on appelle. Il est un petit peu plus petit, plus slim, là. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est plus facile de passer sous la balle quand on va frapper. Si je passe pas sous la balle, en gros, je la top. OK? C'est ça qui arrive. Donc, si tu la topes la balle, elle lève pas. Puis toutes les gens, on haït ça quand la balle lève pas. Faut passer en dessous de la balle. Faut frapper le centre du bâton.
Souvent que le poids à l'intérieur même de la tête, là, on fait un petit aparté technique, là, le poids dans la tête de bâton est comme pas optimal. Là. Fait que ce qu'on vous dit, en fait, là, c'est prenez pas pour acquis que le sandwich de l'ensemble va être aussi efficace que votre fer 8, par exemple.
Non.
Demandez à la personne avec qui vous travaillez, votre enseignant, votre maître ajusteur qui est avec vous, prenez le temps de se poser la question. Est-ce que vous pensez que je devrais jouer le sandwich qui vient dans l'ensemble ou vous n'avez peut-être pas un wedge complémentaire qui pourrait faire l'affaire? Fait que, t'sais, si on fait juste un petit tour rapidement, là, ce que je vous propose, là, c'est 10 bâtons. Vous êtes une femme ou vous êtes une personne à faible vitesse, vous avez besoin de 10 bâtons dans votre sac. Votre bois de départ, vos bois d'allée, donc bois 5, bois 7, bois 9, ou bois d'allée, bois 5, bois 7, hybride 5, hybride 6, votre ensemble de fer qui vous convient, donc un 7 à pitching wedge ou 8 à pitching wedge, un sandwich et un putter. On est à 10 bâtons.
Tout.
Après ça, si vous avez d'autres objectifs, si votre niveau de jeu est beaucoup plus élevé, ou si vous croyez qu'il y a un manque, vous voyez qu'il y a un manque dans votre, ben, oh, ça devient qu'on, vous pouvez commander un seul bâton, ça suffit.
C'est exactement, puis on évolue, puis moi j'ai eu toute ma jeunesse 13 bâtons, 12 bâtons, puis là quand je voyais que j'avais, j'ai un trou là, il manque quelque chose, je parlais à mon père à ce moment-là, puis on achetait un autre bâton, puis là ça complétait mon ensemble comme il faut. Maintenant on parle de loft juste un petit peu, comme on a dit tantôt, le loft c'est l'angle du bâton. OK? Il est différent pour chacun des bâtons. Plus que le loft est élevé, donc plus le chiffre est grand, plus la balle va aller haute dans les airs, donc fait moins de distance. En gros, c'est ça le loft.
Rapidement. C'est exactement ça le loft. Un peu comme j'ai dit, l'importance de l'angle de bâton, c'est qu'il y a une cohérence dans votre ensemble de bâtons. Donc, on ne veut pas avoir 10 ou 15 degrés entre deux bâtons et seulement 3 degrés entre deux autres bâtons. C'est ça. Normalement, un 4 à 5 degrés, c'est ce qu'on cherche.
C'est ça.
Que vous ayez 10 bâtons dans votre sac, que vous en ayez 14, bien, la différence, au lieu d'être 4 degrés entre vos bâtons, ça va peut-être être 6 ou 7 degrés. Mais la réalité, c'est qu'il y a une cohérence dans ces bâtons-là. Et l'autre endroit où je veux m'en aller aussi, c'est le bois de départ. Le bois de départ, souvent, pour les gens qui ont moins de vitesse, vous allez avoir tendance à avoir des angles qui sont beaucoup plus hauts. Donc, on parle d'un 12 degrés, on parle d'un 14 degrés. C'est simplement c'est de la physique. Physique simple. Pas que j'étais passionnée en physique, mais je vais vous l'expliquer simplement.
Vas-y, non.
C'est si la balle n'atteint pas une certaine hauteur, elle va tomber. La gravité va la ramener sur terre. Donc, vous n'allez pas être capable d'aller chercher une certaine distance. Si on a de la vitesse, là, la balle va voyager beaucoup plus. Donc, elle n'aura pas besoin d'avoir cet extra de hauteur-là. Mm-hmm. Comme on parle de gens à faible vitesse, et faible vitesse étant juste dans vos habiletés physiques, en fait, cette hauteur qu'on va aller chercher à la base par l'angle de bâton va juste vous permettre d'avoir une trajectoire qui va optimiser ou qui va maximiser votre distance. Et c'est là que le maître ajusteur va prendre le temps de trouver cette bonne angle-là, puis qui va vous permettre là, d'optimiser tout ça.
Exact. C'est carrément ça. Et ça, c'est le loft. Donc, ce qu'il faut faire attention souvent, c'est d'avoir un ensemble de fer d'une compagnie, des hybrides d'une autre, puis des bois d'une autre. Puis comme on a dit tantôt, les standards sont différents de chaque compagnie. Donc, si vous faites des mix comme ça, il n'y a pas de problème. Mais regardez à côté du petit chiffre du bois numéro 5, c'est quoi le degré? C'est juste ça qu'on a dit. On passe maintenant aux tiges, parce que les tiges ont été nommées d'une certaine façon. On passe de junior, puis il y a plusieurs flexibilités des tiges. Donc, junior, après ça, ils ont dit femme, senior, régulier, stiff, X-stiff, puis je pense qu'il y a encore X-X-stiff après ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils ont nommé. Pourquoi ils ont mis les femmes au bas de l'échelle? ils ont pris un standard, ils ont dit ça. Mais là, Alex va nous en parler un petit peu plus de ça.
Oui, exactement. Dans le fond, les compagnies se sont vues devoir ouvrir le marché avec une stratégie marketing.
Exact.
On n'est pas tous physiciens, on comprend pas toute la logique de ces tiges-là et vous avez absolument pas besoin de comprendre cette logique-là. Ils se sont dit, bon, on va mettre des mots. Donc, il y a la formule qu'Elisabeth a mentionnée, donc le fameux L-A-R-S-X ou X-X, qui est les différentes flexibilités de tiges. Et là, ils se sont vus voir la problématique de dire, oui, mais c'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'une tige pour femmes. Et ce n'est pas le genre qui vient caractériser la tige qu'on a besoin. C'est non. La vitesse et le type d'élan qui vient caractériser la tige qu'on a besoin. De là, ils se sont vus utiliser des données qui étaient des chiffres qu'on appelle des fréquences, qui est simplement là, une mesure qu'on prend à partir d'outils, qui part de 4 et qui monte à ratio de 0.5 jusqu'à 8. Okay. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que ce soit des chiffres ou que ce soit des lettres, il y a une problématique. Et la problématique est la suivante. À l'intérieur même des compagnies de production de tiges, ces fameux, cette catégorie-là ou ces standards-là ne se respectent pas. Donc, dans une catégorie X, je veux pas nommer de compagnie parce que toutes les compagnies sont dans le même bateau. Il n'y a pas personne qui ne l'est pas, là. Dans une même compagnie, ils vont offrir une tige qu'ils vont appeler stiff ou 6.0, qui est l'équivalent, qui va réagir d'une certaine façon. Et dans la même compagnie, mais dans une autre gamme de tiges, soit une tige plus lourde, soit une tige plus légère, ils vont offrir exactement la même chose. Donc, une tige où vous allez voir le petit S, où vous allez voir le 6.0. Le problème, c'est que pourtant, les deux sont des tiges stiff, mais les deux n'ont pas la même flexibilité. Les deux ne réagissent pas de la même façon. Pourtant, on les a identifiés exactement de la même façon.
Fait que c'est pas vrai quand mon père, il dit, moi, ça me prend du stiff, mais du stiff de ping, du stiff de Callaway, du stiff même de une nouvelle tige de ping dans ping.
En fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une compagnie qui fait ses propres tiges. Il n'y a pas une compagnie de golf là, qui fait ses propres tiges. Ils sont en collaboration avec des compagnies qui sont spécifiées en tiges, mais il n'y a pas une compagnie qui a ses propres tiges.
Ce serait trop compliqué là, d'avoir les têtes et les tiges. Là, ça serait peut-être trop dur pour une compagnie.
C'est deux marchés complètement différents, mais qui sont complémentaires une à l'autre aussi. Ils vont s'associer avec des compagnies, puis ils vont créer des tiges selon leurs produits, aussi pour de l'esthétique et tout et tout. Mais ce qui fait que, par exemple, quand vous allez essayer, vous vous dites, il y a une journée, il y a une journée de démonstration ping.
Oh, ping!
Ping, on ne sait pas pourquoi. Petit disclaimer, je suis ambassadrice ping, donc ça me fait plaisir de vous parler de ping en ce moment. Vous allez voir leurs gentils représentants, qui sont aussi leurs fitters, qui sont formés par Ping année après année. Et il va arriver puis vous faire essayer une tige qui a un certain poids, par exemple 90 grammes. Il va vous dire, on va essayer une tige stiff dans le 90 grammes. Il va voir la balle réagir, il va voir votre élan s'ajuster au bâton. Il va dire, on va essayer autre chose. Votre balle est peut-être un petit peu trop haute. On va aller chercher une tige qui est un petit peu plus lourde.
Ouais.
Mais dans le régulier. Là, vous allez dire, non, moi, je suis stiff. Mais c'est parce qu'on change de compagnie, parce qu'on change de poids, le fameux label qu'on va avoir associé à ça va pas suivre les standards. Fait que c'est pour ça qu'on trouve vraiment, quand vous avez des tiges, mais faites juste confiance à vos maîtres ajusteurs dans tout ça. Regardez ce que la balle fait. Soyez clair dans ce que vous voulez aller chercher comme trajectoire. Puis, peu importe ce qui est écrit, là. Importe ce qui est écrit, ce qu'on veut, c'est du résultat. Faites confiance aux personnes qui sont autour de vous.
Moi, j'ai une petite référence, une petite analogie à faire avec ça. Oui. Surtout pour les femmes qui nous écoutent. En fait, dans le fond, ce qu'Alex a dit, c'est qu'il y a plusieurs combinaisons qui fonctionnent. C'est comme des brassières. Donc, si je prends une brassière qui est, par exemple, on va dire quelque chose de simple, 36C. OK, donc un tour de 36.
Si vous êtes un homme, allez me chercher un café et venez dans 2 minutes.
Finir l'analogie. Mais je peux aussi associer à ça, je pourrais prendre un tour de 38 puis associer avec un bonnet B. OK, c'est un peu la même chose. Puis il y en a qui vont aimer mieux 38B, puis il y en a qui vont aimer mieux 36C, mais ça dépend de toutes les personnes. Puis là, moi, j'ai beau dire, ben non, moi, je suis une C. Ça dépend toujours du tour, OK? Donc, c'est une petite analogie super simple à faire avec ça, mais c'est la même chose pour le golf.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut juste s'assurer que quand on se restreint pas.
C'est ça.
OK? C'est pas parce que vous jouez pas du stiff que vous êtes pas fort. C'est juste que votre élan réagit on veut optimiser votre élan.
Mmh.
On veut juste optimiser votre élan. Il faut juste que vous vous rappelez de ça. Rentrez pas dans le « Ah, moi, je veux jouer du stiff parce que je suis fort. » Ça se peut que vous soyez extrêmement fort, mais que vous soyez absolument pas flexible. Puis autant que vous êtes capable de bencher au gym quelque chose d'hallucinant, bien, vous n'êtes pas capable de tourner dans la balle rapidement. Nous, ce qu'on va faire, notre but, c'est pas de vous dire que vous n'êtes pas fort, c'est de vous donner un outil qui vous permet de frapper le plus loin possible, de manière la plus constante possible.
D'optimiser tout ça. Donc ça fait le topo pour l'équipement. On a démystifié un petit peu les compagnies, les tiges, les lofts, les sets de golf. Est-ce que Alex, t'as un mot?
Ouais, pour finir, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous cherchez des endroits, là, vous êtes dans un coin de la région, quoi que ce soit, vous savez pas vraiment où aller. N'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. On va vous référer à nos partenaires là, dans l'industrie du golf. Ça va nous faire un énorme plaisir.
Alors sur ce, on se voit la semaine prochaine.
Bye tout le monde.